Onde Noire, deuxième partie. Et après l'interview et la conversation avec Nadège Agulot, on va parler des livres qui nous ont particulièrement tiltés ces dernières semaines de lecture. Et c'est Jacques qui lance les petits coups de cœur.
Voilà, un coup de cœur pour un polar soudanais. Donc là, on parlait de polar tout à l'heure, qui était dont on n'avait pas souvent. Là, un polar soudanais, c'est quand même, à mon sens, ça doit, à ma connaissance, en tous les cas, c'est le premier ou l'un des premiers, en tous les cas.
Ah non, je ne veux pas te contredire, mais je te dirai après.
Alors, en fait, c'est plutôt le polar d'un auteur soudanais, parce que ça se passe en Égypte. En Égypte.
Tu peux parler anglais.
Et si ça a été écrit en anglais. Ce que tu le dis, voilà.
Voilà.
Alors, c'est un roman de Parker Bilal.
C'est marrant parce qu'on dirait et en fait,
c'est un pseudo d'un auteur qui a déjà écrit plusieurs romans qui sont parus en français aux éditions Actes Sud. Cet auteur s'appelle Jamal Majoub. Donc ça correspond plus au Soudan que Parker Bilal. Alors c'est un nouveau venu dans le monde du polar. Et il ramène un nouveau héros récurrent, un détective privé, qui est un ex-flic, un inspecteur de la police soudanaise, qui a dû émigrer en Égypte après l'avènement, si j'ose dire, l'avènement des islamistes au Soudan.
Une histoire qui me rappelle quelque chose.
Voilà, le roman se déroule en 1998, et vous savez quoi ? On va reparler de foot.
Je ne sais pas ce que tu as en ce moment.
Mais enfin, juste un tout petit peu. C'est juste un prétexte, parce qu'en fait, Makana, qui est donc le détective dont je parlais à l'instant, soudanais, il va être chargé par un certain Saad Hanafi, un riche truand, mais qui est désormais maintenant établi dans la bonne société du Caire. Il va être chargé de retrouver le footballeur vedette de l'équipe, qui est managé, enfin, dont Saad Hanafi est plutôt le propriétaire. Et il a disparu depuis plusieurs jours sans laisser de traces. Mais plutôt, dès le début de ses recherches, Makana, dans un restaurant, va tomber sur une belle jeune femme anglaise qui cherche désespérément sa petite fille, qui a disparu elle aussi, mais 17 ans plus tôt. Elle a été enlevée, non loin du souk, alors que sa mère, à l'époque droguée, recherchait un tout petit peu de dope. Les deux disparitions seraient-elles liées ? Le lecteur de Polar avisé se doute fort qu'effectivement les deux affaires vont se rejoindre. Et on va suivre ce nouvel enquêteur qui vit sur une sorte de péniche, une péniche immobile dont la flottaison n'est pas la principale des qualités. Mais le détective, lui, en a plein des qualités. Ténacité et bonne résistance au coup, ça c'est un minimum pour un détective. Mais aussi, il a une certaine intuition, normale aussi, et un petit quelque chose en plus. Bon, certes, il est morose et désabusé, mais néanmoins débonnaire malgré un lourd passé. Il a perdu sa femme et sa fille au Soudan avant de rejoindre l'Égypte, apprendra-t-on, au détour d'un des nombreux flashbacks plutôt cauchemardesques qui émaillent ce roman. Et là, on va découvrir une Égypte dont les dirigeants, la police et de nombreuses personnes haut placées sont corrompus jusqu'à l'os, pourrait-on dire, mais aussi une véritable misère à peine dissimulée par les pyramides, puisque ça se passe au Caire. Et on va avoir aussi l'influence grandissante et néfaste des islamistes radicaux, d'abord au Soudan, puis peu à peu vers l'Égypte et ailleurs, comme on a pu le remarquer récemment. Et c'est cette misère que j'évoquais juste un petit peu avant, qui est en fait une des principales raisons, mais pas forcément la seule, de la radicalisation des islamistes. Je voudrais aussi parler surtout de l'écriture. On est loin du conte arabe ou des mille et une nuits, et pourtant, il y a un peu de ça. On ressent une imprégnation de cette culture, les histoires à tiroir, la place des femmes, hélas, et les longs moments autour d'une tasse de thé, d'une brochette de kefta ou des agrumes odorants. Et en même temps, c'est une histoire moderne, trop moderne, d'ailleurs, tellement elle est proche de nous par certains événements récents qui peuvent déjà avoir une source dans cette histoire-là. Je disais que c'était un personnage récurrent. En fait, en Angleterre, enfin, il y a déjà trois histoires des enquêtes de Makana. Et je pense que dès la première lecture, on a envie de se plonger dans les suivantes. Donc, lisez ce roman. Et j'ai oublié de préciser, donc, il est paru aux éditions du Seuil et il est traduit par Gérard de Chergé. Et ça s'appelle Les Écailles d'or. Quant aux Écailles d'or, j'en ai pas parlé. Je vous laisse la surprise de savoir ce que c'est. Parker Bilal, Les Écailles d'or au Seuil policier. Et Corinne, tu vas nous parler
Eh ben moi, je vais radicalement changer, on va dire, de ton, dans, tout au moins dans le roman dont je vais parler, et d'atmosphère, parce que d'abord, on va partir en Écosse, et puis ça montre à quel point cette planète polaire et tous les romans noirs dont on vous parle, c'est vraiment une planète protéiforme. Donc c'est un roman qui s'appelle « Ne reste que la violence ». Il est paru il y a quelques mois déjà, c'est un roman de 2014, mais de fin 2014. L'auteur en est Malcolm McKay. C'est chez les éditions Liana Levy et c'est traduit par Fanchita González Battle. Malcolm McKay, on parlait de la trilogie de Zygmunt Milošević tout à l'heure avec Nadezhda Gulo. Eh bien, là aussi, c'est une trilogie et le roman dont je vais vous parler ce soir clôt cette trilogie. Et dans ces trois romans, l'auteur écossais Malcolm McKay explore le méconnu et très étrange métier de tueur à gages. Je cite les deux premiers. Le premier s'appelait « Il faut tuer Louis Winter ». Le deuxième, « Comment tirer sa révérence ». Et je cite que, j'explique quand même, les deux premiers sont réédités au livre de poche. Donc si vous voulez le découvrir sans avoir peur de mettre trop cher dans un grand format, sautez sur l'édition de poche. Ceci dit, on peut très bien lire ce troisième opus sans avoir dévoré les deux premiers. Cependant, je gage... Allez, un petit sourire, jeu de gage, tueur à gage. Ah bon, enfin, jeu de mots. Je gage que vous n'aurez de cesse que de vous procurer les deux premiers si vous découvrez le style de l'écrivain écossais. Dans celui-là, ne reste que la violence. Donc on va continuer à suivre, ou on va découvrir, selon le lecteur, le destin de Callum MacLean. C'est un tueur à gage, et la question fondamentale posée dans ce roman, c'est peut-on mener sa vie, faire des choix, tout du moins quand on est la première gâchette d'un caïd, un mafieux plutôt redoutable et qui doit le rester redouté du milieu, de tous ses pairs, de tous ses co-religionnaires. Voilà, et ce caïd s'appelle Peter Jameson. Entre mécanique implacable et être humain pétri de failles, que ce soit le tueur à gages ou que ce soit son chef, ils vont avancer, trébucher, douter et souvent se tromper. Ainsi, Callum, le personnage principal, après avoir servi fidèlement son employeur, jusqu'à assassiner, dans le deuxième roman, son mentor et héros, Frank McLeod, donc Callum veut décrocher. Il veut prendre sa retraite, très jeune, hein, après un dernier contrat. Mais est-ce que son intelligence et son flair, vont être suffisants pour disparaître de ce monde sans laisser de traces? Et dans un monde que l'on peut qualifier sans caricature aucune d'impitoyable, ça, vous l'allez voir donc en lisant ce livre. On va se faire ainsi suivre une espèce de passion, vraiment au sens étymologique du terme. Callum, au bout d'un chemin de souffrance et de sang, pourra-t-il échapper à ce monde de violence ou restera-t-il à jamais prisonnier de celui-ci? On serait à même de se demander comment l'écrivain connaît si bien ce milieu pour le décrire de cette façon froide, méthodique, sans effet de manche, sans affect. L'amateur de polar, celui qui lit pas mal de romans noirs, pensera à Keller, personnage de Lawrence Bloch, ou bien à Parker, le personnage de Donald Westlake, enfin pas Donald Westlake, puisque pour décrire les aventures de Parker, il emploie un pseudo, Richard Stark, à ceci près que le point de vue de l'écrivain s'efface dans « Ne reste que la violence » et dans les deux précédents d'ailleurs, pour ne laisser qu'un œil neutre et une description chirurgicale des protagonistes et des faits. Et ça, c'est totalement glaçant et totalement réussi. À ceci près que le récit est volontairement flou, déporté d'un monde, je le suppose tout du moins, complètement inconnu pour les lecteurs, pour nous, celui de la pègre, du crime organisé, des organisations criminelles ou mafias de tout genre, souvent décrites, d'ailleurs, soit de manière très conventionnelle, en gros, le monde des gangsters, jusqu'à la caricature, on peut revenir des années en arrière dans la mythique série noire, ou bien de manière excessivement noire, c'est ainsi que débute le roman, lui aussi noir, par exemple avec Dashiell Hammett. Ici, point d'exotisme, de récits hauts en couleur et en herbe de milieu, mais une vision entomologique d'un microcosme, celui du crime organisé donc, mais en gros vu comme le monde de l'entreprise. Ultra-libéral, cela va de soi. Ainsi, La première phrase. Il ne comptait pas rester aussi tard au boulot. Vaut tout aussi bien pour Richard Hardy, le comptable qui va tout de suite être éliminé, que pour Callum McLean, l'exécuteur des bases d'œuvres. Pour terminer, je dirais que ce livre m'a un petit peu fait penser, de très très loin, à un roman de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Pardon. Et la trilogie de Malcolm McKay pourrait s'intituler ainsi, Splendeur et misère d'un tueur à gages. Le dernier opus, donc celui dont je viens de vous parler, le plus noir des trois, démontrant que, sans coup férir, dans ce milieu, ne restera jamais que la violence. Voilà, je redis que c'est paru aux éditions Liana Levy, que l'auteur en est Malcolm McKay, que c'est une véritable réussite. La traduction, Fonchita González Battle. Un peu de musique, Jacques ?
Un peu de musique, et ben, tu parlais d'un auteur écossais, ben, on va écouter un musicien écossais, un de ceux que je préfère en tous les cas dans les Écossais, même dans les Grands Bretons. C'est le nouvel album des Waterboys de Mike Scott. Il est sorti juste avant-hier. L'album s'appelle Modern Blues. Il est toujours accompagné de son fidèle violoniste Steve Wickman. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle Still a Freak.
Voilà, un petit morceau d'écossais qu'on a été obligé d'interrompre un peu pour que nous commencions à fêter les 70 ans de la série noire, Jacques.
Voilà, avec une des premières parutions de l'année, dans le nouveau look qui ressemble fort à l'ancien, un des premiers, donc avec le série noire en jaune, le Gallimard. Il manque le NRF peut-être, mais voilà, c'est très 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 belle nouveau charte graphique pour la collection. Et un nouvel auteur, bon, il a déjà publié en fait ailleurs, mais c'est premier roman chez la série noire, c'est Thomas Bronek. Et une nouveauté non de noir, c'est plus du foot, mais un thriller financier, un polar au ministère des Finances et à l'Élysée.
Je te rappelle l'évangile du Billy Vert.
C'est vrai. Mais c'était pas tout. C'était plutôt
les évangélistes.
Les évangélistes, voilà. Tandis que là, ça se passe vraiment au ministère des Finances, à l'Élysée, et parmi les grands argentiers de l'État, comme on dit. Un polar très ancré dans la réalité, même si l'auteur pose dès le début, à la fin, les précautions d'usage en disant que c'est bien un roman, que les personnages sont inventés. Mais la situation, elle, ne l'est pas. Un gouvernement de gauche qui suit un gouvernement de droite, une crise qui suit celle de 2008, celle des fameuses subprimes. Et après, bon, il y a quelques différences. Ici, le ministre des Finances, c'est la ministre, c'est une femme. Elle est intègre et réellement de gauche. Et tout commence dans ce roman par un suicide. Depuis le toit de Bercy, une femme se jette sur le perron et c'est une ex inspectrice générale des finances. Elle avait eu à étudier le plan de sauvetage des banques, ça c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, élaboré par la droite au pouvoir, pour sortir les grandes banques de la crise, et tout particulièrement le fameux et ici inventé Crédit Parisien. Elle avait fait cette étude, cette enquête en fait, avec une autre inspectrice, Nathalie, qui s'est suicidée peu après la publication du rapport. Et c'est donc l'ancien compagnon de Nathalie, Christophe Desmoury, qui travaille au cabinet de la ministre des Finances. Il va tenter de savoir pourquoi ces deux jeunes filles, dont sa compagne, ont dû se suicider, si j'ose dire. Thomas Bronec, l'auteur, est un spécialiste des milieux financiers. Et il a passé un grand temps à fréquenter le petit monde de Bercy, Bercy beaucoup donc. Il sait donc de quoi il parle après de longues années à fréquenter le milieu. Et il va nous raconter par le biais d'un polar, d'un thriller extrêmement bien mené. Certes, il y a beaucoup de termes techniques, de termes bancaires, financiers, des sigles parfois abscons qui sont souvent expliqués en bas de page. Mais en fait, il n'est nul besoin d'avoir fait Sciences Po ou d'avoir un master d'économie politique pour suivre l'intrigue. C'est là, en fait, entre autres, le véritable talent de l'auteur qui a d'abord monté une histoire impeccable pour mieux nous faire rentrer dans les arcanes des décideurs, des lobbyistes de tout poil, de ces grands banquiers qui pensent que l'avenir de la France passe par eux, par leurs banques, mais aussi par leurs propres, au pluriel, comptes en banque. Seuls certains hauts fonctionnaires, dont la loyauté va d'abord à la France avant d'aller à leurs idées et à leur parti, resteront, sauf aussi quelques rares politiques intègres qui vont malgré tout tous se faire bouffer. Mais certains s'en sortent comme d'honnêtes gens, les honnêtes dans les deux sens, dans le sens ancien et dans le sens plus récent du terme. Il n'est pas question pour Bronec, heureusement, de dire tous pourris, mais de montrer que les politiques, ceux qu'on élit, les garants de la démocratie, n'ont en fait que peu de pouvoir par rapport aux rapaces de la finance, qui eux n'ont strictement aucune sorte d'humanité, puisque, évidemment, on ne peut pas mettre de l'humanité en stock-option, bien entendu. Et ce n'est pas au forum de Davos qui vient de commencer ces jours-ci qu'ils diront le contraire. Alors, l'enquête est très bien menée. C'est vraiment un thriller de seulement 240 pages. Donc, extrêmement serré, un peu comme un café à Naples ou à Palerme. Une écriture qui va à l'essentiel. Un court roman, certes, mais en fait, qui reste en mémoire assez longtemps après avoir refermé la dernière page. Un roman, un polar que j'ai lu d'enthousiasme et dont je ne saurais trop vous recommander la lecture parce que vraiment, outre qu'on y apprend des choses sur un milieu qu'on n'est pas tellement habitué à fréquenter, même si, on a des informations, mais là vraiment, c'est raconté presque de l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si... Je suppose même qu'il a dû enterrer plutôt... taire certaines informations qu'il a pu avoir, parce que je ne pense pas qu'il était autorisé à raconter tout ce qu'il a dû apprendre sur ce qui se passe à Bercy, parce que c'est quand même assez impressionnant, et de voir que des banquiers peuvent pratiquement décider de la politique.
Eh bien, c'est la fin de notre émission, donc on va se dire au revoir. Au revoir Jacques.
J'ai oublié de dire le titre, donc Thomas Bronner, Les Initiés... Thomas Bronec, Les Initiés à la série noire de Gallimard.
Voilà, vous le retrouverez sur le site de La Noire Haute, sur le site d'Agora FM.
Et de Ronde Noire.
Et c'est fini, voilà, au revoir, chacun dans son coin avec un bon bouquin et à la prochaine émission.
Bonsoir.